Rares sont les personnes qui ont la capacité de synesthésie, c'est-à-dire d'entendre des notes de musique et de voir des couleurs associées à ces notes-là, ou aussi de lire des mots et de distinguer des couleurs en même temps. Alors, ce phénomène intéresse mon invité qui expose à la galerie B312, où il peint directement sur les murs, et il se nomme Simon Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez hésité entre la littérature et les arts visuels quand vous avez entrepris vos études supérieures?
Non, j'ai pas hésité. Je pense que j'ai hésité en plusieurs domaines. L'anthropologie, l'histoire, la philosophie, la littérature, la biologie, l'astrophysique, les arts. Fait que ouais, je peux dire que j'ai hésité, mais dans tous ces domaines-là, je pense que les arts visuels m'ont permis de toucher un peu à tous ces domaines-là simultanément.
Et comme la littérature est importante dans votre démarche, qu'est-ce qui motive vos choix de lecture?
Les choix des textes dépendent des projets que je fais. Comme quand j'ai fait le projet de la série des textes fondateurs, ben là, c'était d'aller chercher les textes d'Antiquité, puis de la Mésopotamie, puis les premiers textes qui ont jamais été écrits, et de les rassembler dans une même exposition, réécrits sur chacun sur un papier, pour en faire comme le paysage de la pensée occidentale. Fait que c'était de rassembler tous ces textes-là. Donc, à ce moment-là, c'était les textes anciens qui m'intéressaient. Puis par la suite, quand j'ai commencé à travailler sur Atlas en 2016, qui est à la suite de textes fondateurs, ben là, il était question de m'intéresser plus à la poésie, au théâtre, mais moderne et contemporain.
Et il y a eu, entre autres, la retranscription intégrale de la Bible. C'était une performance exigeante, un texte fondateur. Quelle est la résonance qu'apportait la Bible pour vous?
Bien, quand j'ai fait la retranscription des textes fondateurs, donc dans les textes fondateurs, bien, il y a la Bible, il y a aussi Gilgamesh, puis le banquet de Platon, puis différents textes d'Homère. Mais quand pour la Bible spécifiquement, c'était de la placer dans ce paysage-là, comme j'expliquais tout à l'heure. Moi, ce que je voulais, c'est avoir une vue d'ensemble sur les grands textes ou certains des grands textes, puis ben ce texte-là fait partie. C'est sûr qu'il est associé à une religion, mais moi, je le prenais comme texte, comme écrit. L'idée ici, c'était vraiment de aussi, il y avait des bifurques quand j'ai fait de la retranscription, donc il était aussi de parler un peu de les différentes traductions qui ont été faites à travers l'histoire. Puis, en gros, mon intérêt aussi, c'est le fait de l'avoir fait sur... c'est un papier qui faisait 14 pieds de large, de long, là, si on veut. Donc, il y avait un déplacement du spectateur. Comme moi, je me déplaçais pour retranscrire, il y avait un déplacement du spectateur qui faisait un peu... ça avait un lien, finalement, avec le déplacement du peuple juif à travers la Torah, puis tout ça. Donc, il y avait aussi une correspondance, c'est ça, entre mon mouvement à moi sur ce grand papier de 14 pieds, celui du spectateur, puis celui du peuple dans la Torah.
Et quel était le rythme de cette écriture-là? C'était combien d'heures par jour, par exemple?
Quand j'ai commencé le projet, avant de faire l'exposition à la Galerie de l'UQAM, parce que c'est là que je l'ai présenté la première fois en 2009. Donc, c'est pendant ma maîtrise, je travaillais peut-être 3-4 heures par jour quand même, sauf les fins de semaine. Mais c'était déjà trop, parce que j'avais 2000 pages à faire, tu sais. Fait que, il faut, dans ce temps-là, penser à long terme. Donc, physiquement, j'aurais pas été capable si j'avais continué à ce rythme-là. Donc, j'ai descendu le rythme après quelques mois à peut-être une heure et demie par jour, pour être sûr de pouvoir me rendre le plus loin possible. T'sais.
Et l'écriture était tout à fait minuscule dans cette performance. Il y a eu des séquelles, je crois, à cet événement-là, cette performance-là.
En effet. Mais en fait, c'est suite à toutes les retranscriptions des textes fondateurs que j'ai commencé à développer un trouble de... comme un étourdissement dû au travail trop... ardu d'être aussi concentré, puisque je travaillais pas de loupe, puis mon écriture était très petite, là, 1 mm de hauteur, très très petit, puis ça provient, je bifurque un peu, mais ça, cet intérêt d'écrire tout petit, c'était de rentrer toute l'œuvre sur une page, c'était de donner à voir le livre en entier, comme un one-shot au cinéma, une seule page, puis ça provient aussi de mon intérêt pour les tablettes d'argile retrouvées en Mésopotamie, là, sur lesquelles il y avait les textes en écriture cunéiforme. C'était écrit très, très petit, très dense comme ça. Fait, je pense que cette esthétique-là est comme restée. Puis donc, oui, après 7 ans de retranscription, incluant la Bible et d'autres textes, comme l'Odyssée, Sophocle avec Oedipe au roi et tout ça, une fois avoir retranscrit une grande quantité de ces textes fondateurs-là, ben là, j'ai commencé à développer une forme d'étourdissement. Puis je me suis tourné vers un travail qui, là, un travail différent, un travail de mémorisation, celui d'Atlas, puis un travail de mémorisation de textes plus courts, puis en travaillant les yeux fermés pour me reposer d'une certaine manière. Ça.
Et l'entreprise suivante fut de mémoriser l'Atlas pour le réécrire les yeux fermés. Quels étaient à ce moment-là vos points de repère?
Ah, faut faire attention, là, pour le projet Atlas, c'est un projet en deux parties. Il y a la carte qui est faite d'un million de points que j'ai dessiné. J'ai fait un million de points que j'ai compté avec un compteur de pointage. Puis ça, pour moi, ça devenait comme une carte céleste. Pour ça, je l'ai appelé Atlas. Puis l'idée, c'était que ces un million de points-là représentaient toutes les galaxies répertoriées aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de mettre l'univers en entier sur une carte. Donc ça, c'est la première partie du projet Atlas. Et ça s'appelle, la carte s'appelle Atlas. Le projet Atlas lui-même inclut aussi la deuxième partie qui est initialement 8 textes que j'avais justement mémorisés puis que je réécrivais les yeux fermés. Puis chacun de ces textes-là, les 8 textes se sont retrouvés d'une certaine manière sur la carte comme une constellation. 8 points ont été reliés ensemble pour former une constellation qui était la première constellation sur la carte. Et c'est, oui, en effet, 8 textes mémorisés et réécrits les yeux fermés.
Et comment se faisaient les points de repère
pour le fait de réécrire?
Pour le transcrire, oui.
Pour le retranscrire, ce que je faisais... Ben, en fait, comment ça fonctionnait, c'est que j'avais un texte devant moi que je choisissais intuitivement, OK? Un texte souvent qui était un texte poétique ou un extrait de théâtre ou un extrait d'une nouvelle, assez court, absolument une page ou deux, pas plus. Puis le nombre de fois que je devais le lire, je le comptais, le nombre de fois que je devais le lire pour le mémoriser déterminait le nombre de fois que j'allais le retranscrire. OK? Donc, et une fois que j'avais déterminé, par exemple, j'ai fait 38 lectures de Sylvia Plath, le poème Word, bien, j'allais le retranscrire 38 fois les yeux fermés. Cela dit, j'ai pas gardé les yeux fermés pendant les 38 fois. C'est, j'ouvrais l'œil au début de ma ligne, puis après ça, je fermais l'œil, puis là, j'écrivais. Parce qu'au début de ma ligne, j'ouvrais l'œil, je fermais l'œil, et là, je poursuivais. T'sais. Fait que c'était un travail d'aller-retour entre le repos, l'œil fermé, la mémorisation, puis le point de repère que je me donnais. T'sais. Et ça explique pourquoi aussi les textes, quand on les voit, ces 8 textes-là retranscrits, la ligne n'est plus droite comme dans les textes fondateurs. Là, ça valse, là, si on veut.
Et il y a eu, je crois, aussi l'écriture de droite vers la gauche, donc inversée.
Oui, bien ça, c'est un texte qui est comme à l'extérieur des 2 grandes séries. C'est-à-dire, j'ai eu la série Fondation, puis après ça, j'ai eu la série Atlas. Puis entre ces 2 séries-là, j'ai fait une œuvre pour un ami qui est malheureusement décédé en 2016 suite à un cancer fulgurant, là, puis il avait 36 ans. Et j'y avais fait une œuvre avant d'apprendre qu'il y avait un cancer. Puis cette œuvre-là, c'était une commande spéciale, j'avais jamais fait ça. Puis c'était pas un texte fondateur, mais c'était le prophète de Khalid Gibran. Il voulait l'avoir en anglais et en arabe. Enfin, on a décidé ça ensemble, lui puis moi, parce qu'on est comme devenus amis. Puis donc, j'ai réécrit le texte, le prophète de Khalid Gibran est initialement un texte écrit en anglais, mais j'ai trouvé une version traduite en arabe. Et donc là, je me suis mis à la tâche pendant 1 an de réécrire en anglais et en arabe le prophète de Khalid Gibran. Puis ça, c'était le cadeau là, pour mon ami. Ouais.
Alors, on va poursuivre maintenant dans l'exposition à la galerie B312. Vous avez peint d'abord les murs en bleu foncé. Est-ce que c'est pour nous plonger dans la nuit comme une métaphore ou pour annuler l'espace galerie et nous immerger?
Bien, c'est un peu des deux. Vous êtes pas mal dessus, là. Oui, il y a une certaine volonté qui était là de rentrer la personne dans l'œuvre d'une certaine manière. Comme auparavant, l'œuvre était sur papier, était sur le mur, et donc les gens étaient en face de ces retranscriptions-là. Puis là, il y avait comme une volonté, comme si je pouvais les rentrer littéralement dans le travail de retranscription. Donc là, j'avais un mur, j'ai eu deux mois, hein, là, comme j'ai fait une résidence pendant deux mois là, à la galerie B312. Initialement, cette idée de faire la murale était, oui, de donner un peu cette idée de changer l'espace, de faire un espace immersif, un espace, oui, nocturne d'une certaine manière, parce que c'est un bleu quand même assez foncé. Et, ouais, c'est ça, d'immerger, hein, d'une certaine manière, de rentrer la personne dans l'œuvre, là, puis, ouais.
Il y a deux sources de transcription des lettres vers la couleur, celle des voyelles de Rimbaud et celle de statistique de perception des synesthésistes. Quelques mots là-dessus?
Oui, bien en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour la première série d'Atlas que j'ai présentée en 2017, au début de 2017 chez René Blouin, il y avait 8 textes, puis ces 8 textes étaient mémorisés et réécrits les yeux fermés. Pour la deuxième série de Atlas, si on veut Atlas qui s'appelle Deuxième Constellation, qui est le titre de l'exposition à B312, mais c'est comme la suite, c'est comme une deuxième constellation. Puis là, cette fois-ci, il y a 5 textes. Puis ces 5 textes-là, ils n'ont pas été mémorisés, mais ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est j'ai fait une correspondance, comme vous avez expliqué au tout début, entre chacune des couleurs et les lettres. En me basant, comme vous avez bien expliqué, sur deux sources, une source littéraire et une source scientifique. Pour les voyelles, en effet, c'était le poème de Rimbaud, là, la couleur des voyelles. Et donc, lui, il explique très bien dans son poème pourquoi le E est blanc, le A est noir. Il l'explique de façon poétique. Je trouvais ça très élégant. Puis l'autre source, c'était une source scientifique sur la synesthésie, phénomène très rare, en effet. Mais, disons, ce que j'ai fait, c'est... J'ai regardé certaines recherches qui démontraient que plusieurs personnes avaient tendance à avoir une même couleur. Malgré que ce n'est pas universel, là, mais il y avait quand même des moyennes qu'on pouvait faire au niveau de 500 personnes qui avaient été étudiées. Puis la plupart, ou en tout cas certains d'entre eux, avaient tendance à placer le M plus dans une couleur chaude, comme un rouge ou un orangé. Mais il y avait certains que c'était bleu, il y en a que c'était vert. Mais... Et donc, là, moi, c'est un peu moi qui ai déterminé avec cette étude-là, quelles allaient être les consonnes, la couleur des consonnes. Donc, en faisant ça, je me crée un lexique. Puis ce lexique-là, chacune des lettres de l'alphabet avait sa couleur. Puis donc ça me permettait de créer des œuvres, des retranscriptions, mais cette fois-ci en tant que couleur, en tant que ligne, en tant que tâche. Puis c'est ce qu'on voit sur les murs de la galerie, justement, à B312. C'est des grandes lignes qui se perdent dans le bleu. Puis ces lignes-là qu'on voit initialement comme des couleurs... une peinture abstraite, finalement, on se rend compte, ben, il y a un langage qui est codé derrière, qui est caché. Tu sais. Fait que c'est un peu ça l'idée, quoi.
C'est une nouvelle de Miranda July qui a servi de base à la murale composée de lignes obliques qui ondulent sur le grand mur, un peu comme une aurore boréale. Quel est le lien entre le narratif et la présentation visuelle?
Ouais, ben pour justement, on parlait d'espace nocturne, hein, tout à l'heure avec le bleu foncé. Pour ce qui est du texte de Miranda July, une des choses qui est écrite dans ce petit poème, c'est pas un poème en fait, c'est l'extrait d'une nouvelle. Ça s'appelle The Shared Patio, dans son livre No One Belongs Here More Than You de Miranda July. Puis donc, le dernier paragraphe de cette première nouvelle-là, c'est un paragraphe superbe dans lequel elle s'adresse finalement à des gens qui sont mourants. Puis elle essaie de leur dire... elle dit, dans quelques mots, elle dit « Look at the sky ». Là, je prends une citation, là, mais elle dit « Look at the sky is for you. Look at the faces of the people in the street, they are for you. Everything is for you. » En tout cas, puis à la fin, elle dit « Praise, you can doubt, but praise, praise, praise. » Puis donc, il y avait quelque chose de très élégant, encore une fois, qui me touchait beaucoup. Puis cette idée de « look at the sky », ben pour moi, c'était ça. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Ben il y a soit les étoiles, justement, comme la carte céleste, et il y a les aurores boréales, par le fait même. T'sais. Puis donc, cette idée de... Y a le lien ici se tisse entre cette idée que dans le ciel, peut-être, il est peut-être inscrit des choses, mais qu'on n'arrive pas à décoder encore aujourd'hui de la manière qu'on analyse ce qui nous entoure, là, la réalité. Puis donc, je m'étais dit, hey, si les aurores boréales, c'était des phrases, finalement, tu sais, qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait pas une forme de langage codé? Puis donc, c'est un peu ça qui m'a lancé dans cette direction-là. Quand elle disait « Look at the sky », ben regarde une deuxième fois, peut-être tu vas lire quelque chose dedans. Tu sais. Puis c'est un peu ça l'idée, quoi.
Et à côté des fenêtres de la galerie, il y a un tableau qui se compose de lignes verticales juxtaposées, très serrées, comme un code-barre. Quelle en est la source?
Ça, c'est le texte de Robert... Ben, c'est pas un texte, un poème de Robert Penn Warren. Ça s'appelle « Bearded Hoax ». C'est un poème superbe, un de ses poèmes connus de Robert Penn Warren. Mais encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours comme soit une strophe ou une phrase ou un élément de chacun de ces extraits de textes-là ou de poèmes qui me frappe, qui me happe, là, puis que j'ai besoin de... et qui est en lien avec le reste des autres textes que j'ai sélectionnés. Comme dans ce texte-là, il dit, Robert, ben, il est écrit dans le poème, Robert Penn Warren explique, « We are now lying under the threads of lights ». Et ça, pour moi, le « Threads of Light », ça relançait à l'aurore boréale que j'avais commencé à travailler avec Miranda July, puis l'idée du ciel et tout ça. Donc, lui, il parle de qu'on est couché sur le sol. « We are now lying in the grass underneath the threads of light ». Puis ces « threads of light », c'est des lignes de lumière, de couleurs, finalement. Mais je les ai vues dans ma tête, vraiment, au moment où j'ai lu le poème. Puis donc, j'ai vu ces lignes verticales-là. Les lignes dont vous parlez, qui sont très étroitement. Puis évidemment, encore une fois, chacune de ces lignes-là, basées sur le même lexique que le travail de la murale, c'est-à-dire le même alphabet coloré, se retrouvent placées cette fois-ci de façon très étroite, une ligne après l'autre, toujours de droite à gauche, encore une fois, là, pour chacun de ces textes-là que j'ai réécrits avec les couleurs correspondantes, mais je ne l'ai pas fait de gauche à droite, mais bien de droite à gauche, comme un hommage un peu à l'œuvre que j'avais fait pour mon ami en arabe, t'sais. Fait que c'est un langage qui est codé, mais qui est à l'envers en plus. Fait que, et c'est ça, finalement. Là, et c'est un peu aussi un clin d'œil à Agnès Martin. Je disais des fois, là, c'est comme du Agnès Martin sur le LSD. Là, parce qu'elle, elle faisait toujours des lignes très monochromes, puis tout ça. Fait que moi, j'y vais multicolore. Puis elle, elle faisait horizontal, moi, je l'ai fait vertical. Mais c'est sûr qu'il y a un clin d'œil au minimalisme des années 60, 70. Là, ça. Toute l'œuvre est empreinte de ça. Mais à la différence du fait que c'est pas seulement... pas seulement, c'est pas une recherche esthétique purement, mais c'est une recherche de codification du langage. Là, c'est.
Je dirais aussi un certain lien avec Sol Lewitt, qui travaillait beaucoup sur les murs, entre autres. Oui. Et dans la petite salle, c'est un poème d'Henri Bert, intitulé « Il y a certainement quelqu'un qui vous a inspiré ». Quel est le processus de transcription visuelle pour ce poème?
Oui, bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour mettre dans l'ordre, là, rapidement, j'ai découvert Miranda July. Bon, en fait, je connaissais déjà Anne Hébert depuis longtemps, là, mais Miranda July, je l'ai découverte, découvert son texte il y a 3 ans à peu près. Puis là, j'ai voulu faire quelque chose avec, mais je l'ai mis de côté. Je l'ai écrit partout son texte sur les murs. Je vais en venir à la réponse. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que je l'ai mis de côté, ce texte-là. Et après ça, j'ai travaillé sur le texte d'Anne Hébert. Et je me suis mis à penser à l'aurore boréale. Initialement, avec le texte d'Anne Hébert, tu sais. La danse parfaite, c'est cette ligne-là dans le poème éponyme là, d'Anne Hébert qui m'a touché. Cette danse parfaite, pour moi, je la voyais encore dans l'aurore boréale, finalement. Tu sais. Donc, la vraie source, si on veut, de cette idée d'aurore boréale provient d'Anne Hébert. C'est juste que je l'ai comme reprise, puis on le voit qu'il y a un lien entre ces deux œuvres-là. Quand on vient à la galerie, on voit le lien esthétique entre ces grandes lignes-là qui se perdent dans un bleu profond sur l'œuvre d'Anne Hébert et sur le mur aussi, mais avec des couleurs complètement différentes en termes de saturation. Et donc, initialement, j'ai fait Anne Hébert, puis après, je suis revenu à Miranda July une fois après avoir travaillé d'une même manière ces grandes lignes-là, cet effet aurore boréale-là, en lien avec sa ligne-là, la danse parfaite qui est à l'intérieur du poème d'Anne Hébert. Mais là, je suis passé à Miranda, je suis revenu à Miranda July, puis là, c'est là que ma copine, Élise Lafontaine, a dit « Mais pourquoi t'en fais pas une murale? » Parce que je ne savais pas quoi faire encore avec Miranda July. Je savais que je voulais travailler avec. Puis là, c'est là que j'ai fait « Ah, mais Lucie, elle parle du ciel. » Donc, c'est là qu'il va se placer aussi. L'aurore boréale va revenir 2 fois, finalement, dans l'exposition. T'sais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un peu comme ça, ça s'est placé.
Et on peut voir aussi une vidéo de 5 minutes 30 qui s'intitule « Éther ». Éther qui a 2 significations. D'abord, l'aspect physique, c'est un liquide incolore à forte odeur qui servait à endormir les patients lors d'une opération. Et il y a celle plus ésotérique d'une substance qui imprègne les corps et les font vibrer sous l'action d'une source lumineuse. Je crois que c'est cette 2e signification qui vous intéresse.
Oui, en effet, mais c'est sûr qu'on peut aussi penser à la première définition parce que la vidéo, elle a un peu un effet somnambule ou somnambulisme, ça je veux dire. Là. On dirait, ça se passe, c'est la nuit, hein, ça a été filmé à 2h du matin sur un terrain de golf à Saint-Janvier, puis sous la pleine lune. Puis la lumière, la caméra ne captait seulement que la lumière des LED qu'on avait amené, là, l'espèce de lumière là, qu'on avait amené. Puis donc, on voyait rien d'autre. Fait que ça crée un espace vert. Quand on regarde la vidéo, on voit un espace qui est lumineux, mais le fond, on voit rien. C'est noir pur, tu sais. Puis donc, il y avait un peu... Donc, il y a quelque chose de l'ordre. Quand on regarde cette vidéo-là, on dirait qu'on est un peu dans un rêve. Mais oui, en effet, je pense que le mot éther se relie à deux choses. C'est cette matière-là théorique. Là. On se souvient là, des cinq éléments de Platon. Il y avait le feu, l'eau, l'air, la terre. Et le cinquième élément, c'était l'éther. L'éther était espèce de cette matière invisible qui faisait en sorte que le cosmos était comme il était. Les étoiles se tenaient comme elles se tenaient dans le ciel à cause de l'éther. T'sais. Puis donc, c'était comme une matière invisible qui tenait le cosmos. Et je pense que je voulais toucher un peu à cet espace cosmique, hein, où est-ce que dans un vide profond, d'un noir absolu de l'univers, ben là, des fois, on a une étoile, une nébuleuse, une galaxie qui est là de nulle part, qui apparaît dans ce vide-là. Et donc, je pense qu'il y avait un peu cette idée de créer un lieu dans lequel il y allait avoir un personnage avec un livre, ce qu'on voit dans la vidéo, et qui marche dans ce lieu illuminé, mais qui est entouré d'un vide noir, tu sais, parfait. Puis c'est un peu ça qu'on obtient dans la vidéo. On voit une personne qui lit un livre, puis elle est dans un noir absolu, où il y a des gens au loin qu'on voit, des petites lumières, puis on voit le vert du terrain, mais il n'y a rien d'autre. C'est le noir total, tu sais. Fait qu'il y avait un peu ça. Puis il y a aussi le fait que Éther, c'est le nom d'une personne en question, une fictive, qui est le nom de la personne, mais c'est pas le vrai nom, mais c'est un nom fictif pour la personne qui est en train de lire dans l'histoire. Là, fait que ça l'avait comme trois niveaux d'une certaine manière. Là.
Et un peu dans le même esprit, une mini installation dans un coin de la salle qui s'intitule le Super Symétrie, qui montre un livre qui est couvert d'un liquide qui aurait figé, un liquide métallique, et il y a aussi un miroir gris au-dessus qui reflète ce livre-là. Quel en est le mystère?
Ben, ces deux œuvres-là, hein, la vidéo puis l'installation Supersymétrie, en fait, c'est une seule et même œuvre. Là, parce qu'en fait, le livre qu'on voit sur le miroir, c'est le livre qu'il y a dans la vidéo. T'sais. Puis ça, c'est une chose que je vais retravailler la prochaine fois que je vais le présenter. C'est vraiment mettre au clair que c'est une seule et même œuvre, que le livre est la source. En fait, le livre qu'on voit là, c'est l'archive de la performance qui s'est faite pendant la vidéo. Là, je voulais le recouvrir de mercure, mais le mercure est très toxique. Donc, j'ai été vers du gallium, qui est un métal qui fond à 26 degrés, qui peut fondre dans la paume d'une main. Puis, ça a exactement le même aspect physique que le mercure. Et j'ai chauffé le gallium, puis je l'ai fait couler sur le livre. Sur un livre dont on ne sait pas c'est quoi, je le dis pas à personne, c'est comme mon secret. C'est le livre qu'on voit dans la vidéo. Et l'idée ici, c'est mes dernières lectures sur les textes alchimiques puis l'hermétisme du premier millénaire, puis qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est un peu ce qui s'en vient là, dans mon travail. Là, les prochaines expositions vont sûrement relater de ces lectures-là. Puis ça rapporte juste un fait intéressant d'un auteur de texte alchimique qui faisait remarquer que pour les alchimistes, le mercure, bon, c'est une des trois matières principales avec le sel et le sulfure pour créer ce qu'on appelle la transmutation, la transformation d'un métal brut comme le plomb à l'or ou à l'argent. Et donc, mais le mercure a aussi une autre propriété pour les alchimistes, c'était... Pour eux, métaphoriquement, c'était l'image de l'esprit. C'était l'esprit lui-même. Pourquoi? Parce que pour eux, on ne voit pas le mercure. Ce qu'on voit, c'est l'univers qui entoure. Le mercure reflète l'univers qui entoure, qui est autour du mercure, finalement. Si on regarde du mercure, ben, ce qu'on voit, c'est l'environnement autour. Puis si on sépare une goutte de mercure, ben, ça crée un deuxième univers. L'univers est réfléchi une seconde fois. T'sais. Puis donc, pour eux, c'était une façon, une métaphore physique de l'esprit humain. C'est-à-dire, l'esprit humain, on ne le voit pas, on ne peut pas mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il reflète l'univers qui l'entoure. Puis autant d'êtres humains qu'il y a d'univers comme des gouttes de mercure dans l'univers, tu sais, qui reflètent l'univers qui les entoure. Tu sais. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai décidé d'utiliser le mercure. Ben là, dans ce cas-ci, c'était du gallium. Puis de recouvrir le livre. Je pense, pour moi, ces deux œuvres-là sont encore très énigmatiques, mais ce que je sais jusqu'à maintenant, parce que des fois, on découvre nos œuvres rétroactivement, tu sais. Puis ce que je sais jusqu'à maintenant, de ce que je décrypte de ma propre œuvre, c'est que je pense que c'était un clin d'œil à cette idée qu'on se projette dans les livres, dans les histoires, comme je l'ai fait pendant 7 ans en relisant Homère, puis Platon, puis Virgile. Puis, donc, on se projette. Dans ces livres-là, on se projette dans l'histoire de Ulysse, puis on vit d'une certaine manière cet univers-là en se réfléchissant dedans. T'sais. Fait qu'il y a un peu, je pense que ça touchait un peu à ça. Là, ça touche aussi, évidemment, il y a un clin d'œil à Richard Serra, qui est un artiste des années 60, minimaliste encore des années 60, puis dans lequel il avait fait couler là, du plomb, je pense, ou un métal sur différentes surfaces, puis fait différentes œuvres dans... Enfin, je pense qu'il y a un peu de clin d'œil là-dessus aussi.
Alors, fort intéressant cette démarche de Simon Bertrand. L'exposition se terminera le 13 octobre à la galerie B312 qui est située au 372 Sainte-Catherine-Ouest. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci.